Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 7. Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 7. Je vais lire ce texte au nom de Jésus. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Amen. Je sais pertinemment que dans vos cœurs, en suivant ce texte, cette lecture, la grosse majorité vont sûrement tout de suite faire le lien et penser à Jésus-Christ qui, lors de la Passion. Beaucoup diront que c'est une prophétie qui parle du Christ, de tout ce qu'il va endurer pendant les trois derniers jours avant sa crucifixion. C'est pas faux, mais si nous tenons compte au contexte, le prophète n'a pas pensé à Christ à ce moment-là. C'est notre lecture christologique aujourd'hui qui nous donne une compréhension de tous les textes bibliques, y compris ce texte, avec le Christ. Alors, ce que nous allons faire dans la compréhension de ce texte, c'est d'essayer de savoir de qui s'agit-il. Et quelle serait la conclusion que nous allons en tirer par ce texte? Pour cela, je me rappelle, j'avais une prof d'exégèse assez originale, spéciale même. C'était une Suisse allemande. Elle avait expérimenté une méthode d'analyse textuelle qui, au départ, cette méthode me semblait très bizarre. Je vous ne le cache pas, j'avoue, j'avais pensé que nous étions ce jour-là sans cobaye pour expérimenter peut-être une nouvelle méthodologie d'étude textuelle. D'ailleurs, elle était chef d'un groupe de recherche en langue sémitique. Donc elle avait expérimenté de nouvelles méthodologies avec notre groupe. Elle nous a initiés à faire des papagailles, on appelle ça des papagailles ou des perroquets, c'est-à-dire quand vous regardez dans un perroquet, il y a plusieurs couleurs en lui. Alors sa méthode consistait à faire recopier les textes bibliques en plusieurs fois et mettre dans un tableau, plusieurs tableaux, des couleurs différentes à chaque texte. Et quand on avait fini de faire cela, par exemple 10 ou 15 copies avec des couleurs différentes en fonction de ce que nous voulons mettre en valeur, elle nous a demandé d'afficher tous ces textes comme si on faisait une exposition dans nos chambres à coucher. Et elle nous disait, à chaque fois que vous entrez ou vous sortez de vos chambres, regardez ces textes avec toutes les couleurs et vous allez voir, les textes parleront d'eux-mêmes. Et c'était vrai, à ma grande surprise. Et c'est cette méthodologie-là que j'ai utilisée ici. C'est ce que j'ai fait pour préparer cette prédication. Et en lisant et en relisant plusieurs fois avec cette méthode, ce texte, mon regard s'est finalement focalisé sur le verset 7. Car ce verset me semble familier. Tout de suite, il y a un écho qui revient en moi. Je reprends le verset 7 pour que vous l'avez en vous aussi. « Mais le Seigneur Dieu m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas été confus, C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit ou du caillou dans la version français courant. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai déjà entendu cette phrase. Alors, je me suis plongé dans ma concordance et j'ai trouvé une parole similaire à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, versets 8 et 9. Voici ce qui est écrit. « Je rends ton visage dur face à leur visage. Je rends ton front dur face à leur front. Je rends ton front comme un diamant plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux. Ne sois pas terrifié par eux, car c'est une maison rebelle. » Voilà ce qui est dit chez Ézéchiel. C'est-à-dire que l'Éternel a endurci le visage de ses serviteurs qu'il a envoyés vers Israël. Endurci leur visage envers ce peuple, car il est conscient que c'est un peuple qui a la nuque raide, comme dit la parole. Et ce parallélisme m'a poussé à regarder les histoires de vocation de la plupart des prophètes de Dieu. Prenons par exemple Jérémie. Dieu a dit qu'il l'a façonné dès qu'il était encore dans le ventre de sa mère. On peut dire que sa matrice a été préparée pour faire face à la dureté de la mission. La mission sera dure et donc il faut déjà façonner Jérémie dès le sein de sa mère pour qu'il soit dur face à ce peuple. Dans Jérémie 1, chapitre 1, versets 7 à 10, on peut voir, il nous laisse entendre que ce ne sera pas une partie de plaisir la mission qu'il attendait. Voilà ce qui est dit. « Ne dis pas que tu es trop jeune. » Il était encore faible, fragile. « Tu iras trouver tout ce qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les peuples et les royaumes. Et écoutez la suite, tu vas déraciner, démolir, casser, détruire, mais aussi reconstruire et replanter. » Cette parole adressée à Jérémie est similaire à ce qui est dit ici au verset 4. C'est par la parole de Dieu que le messager a reçu, il transmettra à son tour aux abattus, puisque lui, il a été endurci, et ensuite, il pourra restaurer ceux qui sont abattus. Et que le Seigneur va aussi endurcir, dans le sens de fortifier, le cœur de ceux qui ont été fragilisés. Dieu n'a pas enlevé la captivité, mais il va renforcer son peuple pour pouvoir tenir bon face aux problèmes. Et ça tombe bien à notre situation aujourd'hui. Face à ce qui se passe autour de nous, Dieu va nous endurcir pour que nous soyons forts face à cette épreuve. Un autre exemple d'histoire de vocation, celle de Moïse. Avant que le Seigneur l'envoie à libérer son peuple, il fallait d'abord l'endurcir dans le désert, avant de lui confier la tâche de conduire le peuple, formation militaire, au désert, en gardant les brebis de son beau-père Jéthro, 40 ans, vous imaginez un prince d'Égypte qui est devenu un berger, mais ça fait partie de la formation. Mais surtout, ce qu'il avait vraiment besoin, c'est de rencontrer et de passer du temps à parler avec son Dieu, qu'il ne connaissait pas encore. Il l'avait entendu, mais c'est là qu'il le voit, face à face. Deutéronome disait bien, Moïse était né à né avec Dieu. Et c'est ça qui a endurci le visage de Moïse. Alors Moïse avait cette habitude d'aller vers la montagne pour parler à son Dieu. Et il est bien dit, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, quand il revenait à chaque fois de la montagne, les textes disent qu'il avait le visage qui rayonnait. C'est incroyable, non? Plus il était en contact avec son Dieu, plus son visage rayonnait. Donc il s'est endurci et il est devenu comme son Dieu. Et il est dit que lorsque Moïse avait fini de transmettre le message de l'Éternel, on lui remettait le voile sur son visage, tellement il rayonnait, et ce que le peuple avait pris peur de le regarder. Nous allons peut-être dire, waouh, quelle chance qu'il avait ce Moïse. Mais non, je vous dis franchement, il n'y a pas de quoi s'emballer, parce que Dieu savait qu'il aura une mission difficile. Il se cassera la figure contre ce peuple qui a la nuque raide. Donc il faut l'endurcir, il faut qu'il soit fort. Et c'est pour cela que Dieu l'a consolé à l'avance. Avoir ce visage comme le diamant, c'est-à-dire dur. Donc, quand on parle ici d'endurcir, en même temps, il y a l'éclat, mais aussi il y a la dureté. Dur comme le diamant, dur comme le granit, comme ça a été dit à Ézéchiel. Même chose à Ésaïe. C'est parce que ce qui les attendait ne sera pas du tout un cadeau. Ce n'est pas un don qui fait envier, chers amis. Mais je dirais que c'est un outil, peut-être une sorte de calmant, d'anesthésie, pour atténuer le choc que les serviteurs de Dieu vont recevoir. Et où là, ils doivent faire face à leur mission. Et de fil en aiguille, cela nous fait penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus aussi, à la veille, rappelez-vous, ou avant quelques jours de sa passion, que s'est-il passé ? Avant la passion, en parlant de visage endurci, comme le diamant, le visage qui rayonne comme le soleil, cela nous fait penser à quoi ? Juste avant la passion, réfléchissez un peu dans les textes bibliques. Inéluctablement, tout cela nous mène à deux endroits différents. Le premier, sur la montagne de la transfiguration. Juste avant la passion, il y avait la transfiguration. Ne l'oubliez pas. Que s'est-il passé sur cette colline ? Le Père qui vient reconforter son Fils avant qu'il va subir la passion. Avant de lui faire passer à sa destinée mortuaire. Et pour cela, il l'a glorifié devant les trois disciples d'abord. Mais aussi, il le place au-dessus de tous les personnages bibliques importants de la foi juive. Il y avait Élie et Moïse à ses côtés. Les deux qui, on peut dire, ceux qui ont côtoyé de très près l'Éternel. Donc, cette transfiguration avait une signification particulière pour montrer à l'avance le Jésus qui est déjà ressuscité avant la passion. C'était le Jésus déjà ressuscité que les trois disciples ont vu sur la montagne. Puisqu'il apparaissait avec une splendeur inhabituelle aux disciples. Et rappelez-vous, cette histoire se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 9 à 10. Et là, il y a une phrase de Jésus qui en dit longue, voilà ce qui est dit. « En descendant de la montagne, après la transfiguration, Jésus leur défendit, c'est-à-dire aux trois, de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Vous voyez ? C'était un avant-goût de la passe, de la résurrection. Avant que Jésus traverse la passion, il faut glorifier le Fils de Dieu. Donc, ce que les disciples voyaient ici, c'était dans le but de réconforter avant les scènes terribles et horribles qu'eux vont aussi subir. Le Père réconfortait le Fils par sa parole et l'apparition d'Élie et de Moïse, et par la suite, le Christ consolait aussi à l'avance le cœur de ses trois disciples en voyant leur maître comme ils ne l'ont jamais vu, un corps glorifié. Voilà le premier endroit. Le deuxième endroit, maintenant c'est à Gethsémané, où Jésus avait reçu, au moment où il était troublé dans sa chair, il s'est mis à part pour prier. Et là, rappelez-vous, il y avait une autre visitation pour le reconforter. L'ange de Dieu est venu vers lui. là où les sueurs de son front étaient devenues comme du sang. On voit là un Jésus terrorisé de peur. Oui, chers amis, Jésus qui a peur. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais là, un ange de Dieu lui est apparu pour endurcir ce visage. Ce visage qui est pris de peur, de panique. Et car, après avoir quitté cet endroit, quand il a fini de prier, quand il a reçu la visite de l'ange, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, on voit un Jésus serein face à l'ennemi. Et c'est lui-même qui dit à ses disciples, « Levons-nous, ils arrivent. » Il était prêt, face à sa destinée. Je vous pose alors la question pour clôturer ce message. Pourquoi le Seigneur Jésus est-il digne de confiance, chers amis? Pour deux raisons, à cause de ses deux natures. En tant que Dieu, il a tous les pouvoirs et donc il est capable de nous faire sortir de n'importe quelle situation la plus compliquée. Cela est clair. Mais ne l'oublions pas aussi, de l'autre côté, en tant qu'humain, nous devons faire confiance à Jésus parce que lui aussi, c'est un humain. On oublie cela. Son humanité nous rassure à un point que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et je prends le passage de l'Épître aux Hébreux qui est dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. » Il est sensible à nos faiblesses. Pourquoi ? Parce que c'est un humain. Il a été soumis sans péché et à des épreuves en tout point semblables. Voilà pourquoi il me comprend. Voilà pourquoi il peut te comprendre. Parce que lui, il a vécu dans sa chair. Et donc, dans la vie de tous les jours, nous sommes si contents, par exemple, lorsqu'une personne que nous estimions, que nous aimons, arrive à un niveau de compréhension de ce que nous vivons. Oui, je peux te comprendre. Nous sommes rassurés quand quelqu'un nous dit cela. D'autant plus que le Christ, qui possède plus qu'une capacité de compréhension, il sait de quoi il s'agit. Plus qu'avant nous, il l'a connu. Il a connu la faim. Il a connu la tristesse. Il a connu la souffrance. Il a connu la peur. Et enfin, la plus grande chose, il a connu la mort. Et il nous devance déjà dans l'au-delà. Et il va nous le faire connaître plus tard. Que la paix du Seigneur soit avec toi et que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Amen.